Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aïe Néné. Mon invitée du jour s'appelle Elvire. C'est une maman de 36 ans qui a quitté son super poste d'ingénieure chimiste pour devenir conseillère en allaitement. Vous verrez, Elvire est top, elle est pragmatique, elle est directe, elle est sans détour, elle connaît bien son sujet et comme d'habitude, c'était un plaisir de discuter avec elle. Cette femme, c'est vraiment la force tranquille. J'ai eu toutes les galères possibles et inimaginables pour enregistrer cet épisode. Il y a eu des coupures, il me manquait des parties, enfin bref, ça a été une tannée. Et Elvire, elle, pour le coup, elle a toujours gardé le sourire, ça a été, comme je l'ai dit, la force tranquille. Et grâce à elle, tout s'est bien passé. J'espère vraiment que vous allez aimer cet épisode. Si c'est le cas, alors n'hésitez surtout pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et je vous souhaite une bonne écoute. Coucou Elvire, comment tu vas ?
Salut Adia, je vais bien et toi ?
Ah oui, ça va super, je te remercie. Alors encore une fois, peut-être pour la troisième fois, hein, je te dis merci d'accepter de participer à cet épisode.
Ben, avec grande joie, ça me fait plaisir d'y participer.
Oh, c'est super gentil. Parce que voilà, t'as un parcours qui est quand même assez atypique et hyper intéressant, surtout concernant donc la maternité et l'allaitement. Tu vas nous en parler un petit peu plus, mais voilà, je pense que c'était important que tu puisses être là pour nous raconter un petit peu ton histoire et pour nous donner des conseils sur l'allaitement, parce que voilà, il y a des mamans qui sont là, qui ont peut-être besoin, enfin qui ont des questions et qui ont peut-être besoin de savoir certaines choses, donc c'est super que tu puisses y répondre.
Eh bien, allons-y, c'est super. Parti, avec joie.
Cool. Alors, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, je m'appelle Elvire Tonisso, j'ai 36 ans, je viens d'avoir 36 ans, j'ai deux enfants, Ariane qui a 5 ans et Pierre qui a 2 ans et demi. Et je suis mariée à un Français qui s'appelle Denis.
Super, c'est cool. Et donc Elvire, tu m'as dit que tu as grandi à Cotonou, au Bénin, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée ton enfance là-bas ?
Alors, au Bénin, donc j'habitais dans la maison de mon grand-père avec ma maman, avec des tantes et tout ça. Donc c'était vraiment les grandes maisons avec les grandes familles et les enfants autour. Donc c'était top. Après, avec aussi les soucis qu'il y a dans ces genres de maisons, hein, voilà. L'histoire entre les tantes et tout ça, bref.
Oui.
Après, je suis allée dans une école, j'allais dans une école privée de la maternelle à la terminale. Et à vrai dire, je pense avoir vécu une enfance heureuse en fait, parce que ma maman travaillait beaucoup, mon papa était absent parce que mes parents sont séparés, donc ma maman travaillait beaucoup, mais du coup j'avais mon grand-père qui était là pour s'occuper de moi et du coup franchement j'ai vécu une enfance très heureuse. Enfin, pour moi c'est un bon souvenir quoi. Voilà, que ce soit à l'école
ou. Ouais, c'est le plus important. Ouais. C'est voilà, super. Voilà. Et donc tu étais là-bas jusqu'en terminale et après tu es venue en France, c'est ça ?
Après je suis venue en France pour mon bac, ouais. Après le bac je suis venue en France et j'ai fait mes études ici, mes études supérieures ici.
Ok, bah justement est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours scolaire et de ton parcours professionnel ?
Mon parcours scolaire après bac ou c'est ça ?
Ouais.
Après bac ? Après bac. Alors après bac, donc je suis arrivée en France à Paris, j'ai fait une classe prépa. Sur Paris. Ensuite, j'ai passé les concours d'école d'ingénieur. Donc, je suis diplômée d'une école d'ingénieur de chimie Bordeaux, plus exactement. Après ça, j'ai fait une thèse de physique, spécialisée dans le domaine pétrolier. Et puis, j'ai travaillé comme chercheur dans une entreprise de chimie, dans une grosse entreprise de chimie. Et en fait, j'ai travaillé comme chercheur pendant 7 ans. Et pendant cette année, j'étais en charge de la gestion de plusieurs projets de recherche qui étaient financés par des industriels comme Total, Chevron, Shell, enfin les grandes entreprises du monde pétrolier, voilà.
Oui, on les connaît.
Voilà, j'étais chargée de mener des recherches pour eux et c'était des projets de recherche de plusieurs millions d'euros. Et puis, d'accord. Au bout de quelques années, enfin au bout de... quand Ariane est née, on va dire ça comme ça. Oui. Donc Ariane est née en 2015, donc là ça faisait déjà 5 ans que je travaillais là-bas, enfin plusieurs années que je travaillais là-bas. Et quand Ariane est née, du coup, petit à petit, j'ai perdu de l'intérêt pour ça en fait. J'ai perdu de l'intérêt pour ce boulot-là, pour le fait de travailler dans le monde pétrolier, parce que j'avais des convictions qui devenaient de plus en plus écolo. Et en fait, moi, j'avais voulu travailler dans ce monde-là pour faire en sorte que la production de pétrole soit plus propre. Parce qu'on a quand même besoin, mais bon, voilà, faire en sorte que la production soit propre. Et ça, mes clients et mes patrons ne l'entendaient pas de cette oreille. Donc, du coup, et puis, mes convictions devenaient de plus en plus fortes. Et puis, J'avais pas envie d'être un modèle pour Ariane de quelqu'un qui renie sa conviction. J'avais pas envie d'être pour Ariane une personne qui ne va travailler que pour avoir un travail alimentaire. Je voulais vraiment avoir... C'était déjà ma façon de voir à la base. Mais en plus, le fait d'avoir Ariane ça, et d'avoir Pierre aussi, ça m'a fait penser vraiment, je ne veux pas leur donner cet exemple-là. Je veux leur donner un exemple de quelqu'un qui suit ses convictions. Et donc, du coup, j'ai décidé de tout laisser tomber pour aller, pour aller vers un sujet qui me plaisait plus, qui était, était l'allaitement. Donc, je me suis formée comme conseillère en allaitement et puis j'ai démarré mon activité en conseillère en allaitement. Et puis après, petit à petit, ben, j'augmente un petit peu mon activité en m'orientant vers comme coach pour les mamans, en fait. Pour toutes les mamans qui souffrent, tout ce qui est baby blues, burn-out et tout ça. Donc voilà, j'ai toute cette activité-là pour aider les mamans à mieux vivre leur maternité, en fait, tout simplement. Ouais. C'est ce que je fais aujourd'hui.
Super. C'est super. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic, justement, en fait? À quel moment est-ce que tu t'es dit, il faut que j'arrête? Parce que t'as dit que c'était quand ta fille est née. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience?
Alors, en fait, ma fille est née, donc je suis allée travailler, j'étais dans cette routine-là, de, au quotidien, machin. Et puis, je me rendais bien compte que ça allait pas, j'étais pas motivée pour y aller, quoi. Le matin, tu arrivais, tu dis, ah, encore une journée, au boulot. Déjà, moi, c'était déjà un mauvais signe. Et puis, il y a eu un gros événement qui s'est passé, c'est qu'il y a ma cousine qui est décédée d'un accident de la route à Cotonou. Et elle avait 28 ans. Et cet événement-là m'a énormément marquée dans le sens où je me suis dit... Bon, déjà, c'est ma cousine, j'étais proche d'elle, donc c'était douloureux. Mais en plus, je me suis dit... mais en fait, ma vie peut s'arrêter demain. Voilà. Et ça me gonfle de passer 8 heures par jour à faire un boulot qui me plaît plus, alors que je peux mourir demain, quoi. Si demain, je dois mourir, je veux pouvoir dire j'ai fait ce que j'avais envie de faire et j'ai été heureuse tous les jours. Voilà. Et du coup, à cause de ça, je me suis dit, OK, c'est bon... Ça a quand même pris le temps de maturer. Et puis après, j'ai dit à Marie, écoute, je vais partir parce que ça me va plus. Elle m'a dit, OK, pars. Et là, j'étais, ah, mon mari.
Génial.
Voilà.
Ouais, parce que c'est important d'avoir le soutien de la personne avec qui on vit, hein, quand même. Hein. C'est, voilà. C'est super important parce que ça fait au début une source de revenus en moins, ça fait du stress en plus. Même si toi, ça te permet de pouvoir satisfaire en fait ton besoin de faire ce que tu aimes. Il y a tout l'environnement, il y a les enfants et le fait de savoir que lui te soutient, bah déjà ça te libère, quoi.
C'est sûr. Ouais. C'est sûr que c'est pas une décision qui est facile à prendre lorsqu'on a des responsabilités, en fait. Parce que j'avais la responsabilité de deux enfants. Entre mon mari et moi, c'est moi qui ai gagné le plus d'argent. Donc, ça fait vraiment un gros manque à gagner.
Oui.
Si je décide de partir de cette société. Donc, c'était vraiment une décision difficile, en fait. Pour le côté sécurité, voilà, on a des responsabilités, on prend soin d'une famille. Donc, du coup, c'est pas comme ça qu'on a été élevé, qu'on a des responsabilités, on en prend, voilà quoi. Mais de notre côté, il y avait donc ce côté alimentaire, mais de notre côté, c'était pour moi aussi ne pas prendre mes responsabilités que de montrer à mes enfants que oui, il faut que tu bosses comme salarié, même si ton boulot te plaît pas, parce que c'est comme ça qu'est la vie, quoi, tu vois. Ça m'allait pas, en fait, de leur montrer cet exemple-là. Et c'est vraiment, je pense que si j'avais pas eu mes enfants, j'aurais sans doute continué. Mais par rapport à l'image que je voulais leur donner, à l'exemple que je voulais leur donner, en fait, et surtout à ma fille, en fait, pour le fait que, pour dire aussi que oui, même si t'es une femme, tu peux créer une entreprise, tu peux te développer, et même si ça marche pas, au moins t'auras essayé, tu vois.
C'est
avoir
ça.
Ce courage-là de le faire. Du coup, c'est pour ça que je l'ai fait, ouais.
D'accord. Non, c'est super. Et donc là, tu viens de lancer ton activité, donc t'es conseillère en lactation et coach de vie,
pour les
femmes, pour les mamans. Nous, on a des petites questions à te poser.
Vas-y, dis-moi.
Voilà, surtout concernant l'allaitement. Alors, la première question, c'est savoir, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité que l'allaitement fait tomber les seins?
Alors, c'est une grande question.
Oui, c'est un grand débat.
C'est un grand débat. En fait... j'ai une réponse assez mesurée là-dessus, parce que je vais pas non plus dire n'importe quoi. C'est vrai que l'allaitement a un effet sur les seins, parce que effectivement, pendant la, il y a la glande mammaire qui va se développer, donc du coup les seins vont gonfler. Après, l'enfant va téter, et puis après, quand on va finir l'allaitement, les seins vont un peu tomber. Mais en fait, c'est pas tellement le fait que c'est pas tellement l'allaitement, c'est plus déjà pendant la grossesse, en fait, parce que pendant la grossesse, déjà les seins gonflent, de base. Et puis même si on n'allait pas, il y a cet effet-là de l'effet qui gonfle, qui se dégonfle, qui gonfle, qui se dégonfle au fil des grossesses. Ça fait que finalement on tire sur les tissus, c'est exactement le même, la même, comment ça s'appelle, le même phénomène que fait d'avoir des vergetures ou des choses comme ça. C'est vraiment le même phénomène qui fait qu'on étire les fibres de la peau, qui font que la peau devient un peu plus, un peu moins élastique, et donc du coup ça fait tomber les seins. Par contre, pour moi, ce n'est pas l'allaitement qui fait tomber les seins, c'est juste le fait d'avoir des grossesses en fait. D'accord. Après, ce qui se passe en fait lorsqu'on allaite, il y a un effet qui est assez impressionnant, c'est que au début, donc on a passé 6 mois, on avait des gros seins pendant la, enfin pendant la grossesse et tout, on s'est habitué à ces gros seins là, on a allaité pendant je sais pas combien de mois, on a encore des gros seins, et puis après, subitement autour de 4 mois, que tu allaites ou que tu allaites pas, tu te retrouves avec des espèces de gants de toilette et tu sais pas, non mais c'est vrai, et tu sais pas d'où ça vient. Et en fait, déjà, tu t'es habitué à peut-être un bonnet B ou C avant, t'es passé un bonnet D ou E, donc tu t'es habitué à ça. Et puis subitement, tu te retrouves avec un truc tout mou au bout de 4 mois. Et en fait, ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de mamans qui voient ça, qui ont peur d'ailleurs que ça signifie qu'elles ont plus de lait. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste que le corps s'est adapté. Et puis, du coup, t'as cet effet de les seins qui tombent là d'un coup. Mais après, ça revient, en fait. Au bout de quelques mois, là, les tissus se remettent en place. Et puis après, tu retrouves des seins, je vais pas dire comme avant la grossesse, mais en tout cas, des seins potables, quoi. Voilà.
D'accord. Bon. Ok, bah c'est bon à savoir alors, parce que c'est vrai que oui, il y a des mamans qui refusent justement d'allaiter à cause de ça, et c'est la seule raison. Et au final, quand on sait que c'est pas l'allaitement même qui fait tomber les seins, bah on se dit que bah pourquoi pas au final.
Par contre, c'est important de savoir qu'il y a ce phénomène là où on va pouvoir avoir pendant quelques mois. Après avoir fini d'allaiter pendant quelques mois, on va avoir des seins qui sont un peu mous, mais après ça revient en fait. Oui. C'est comme le fait de retrouver la ligne après la grossesse. Voilà, c'est tout, c'est un ensemble de choses qui font que les seins reviennent comme ils étaient, presque comme ils étaient avant, tout à fait.
D'accord, c'est le corps qui se remet en place, quoi. Ok. Et bah justement, tout à l'heure, t'as dit que donc il y a des mamans, comme leurs seins diminuent, elles pensent que c'est parce qu'elles n'ont plus de lait. Bah moi, je vais rebondir sur ça. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que parfois il y a certaines mamans qui du jour au lendemain, ou en très peu de temps, n'ont plus de lait?
Non, plus de lait. Alors, le fait de ne pas avoir de lait, s'il n'y a pas de pathologie à la base, donc c'est-à-dire des problèmes hormonaux, ou si on n'a pas subi de chirurgie des seins et tout ça, du jour au lendemain, ne plus avoir de lait, ce n'est pas possible. Donc, il y a cette impression-là que les seins sont flasques, mais en fait, la forme et le fait que les seins sont durs au bout n'a rien à voir avec le manque de lait. Et souvent, les mamans vont interpréter ça comme le fait qu'elles ont plus de lait. Et du coup, elles vont commencer à donner des biberons. Et c'est le fait de commencer à donner des biberons qui va faire que la production de lait va s'arrêter. D'accord?
D'accord. Ça va réduire comme en fait, c'est un peu à la demande. Mais voilà. Et bien, ça va réduire la quantité.
Tout à fait. Donc, du coup, si vraiment la maman a allaité son bébé à la demande dès le début et n'a pas voulu espacer trop tôt les tétés et tout ça, si elle a vraiment laissé le bébé venir au sein normalement, et si elle a pas eu de difficultés pendant son allaitement au début, le lait ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est pas possible.
D'accord, ok. C'est une impression. Lait est là, mais c'est l'impression
Le fait de regarder ses seins va te dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de lait, mais en fait, c'est pas vrai. Et j'ai pas mal de mamans qui me disaient, quand j'ai écrit un article là sur le fait que les seins tombent du jour au lendemain, elles m'ont dit, ah, si j'avais su que mes précédents bébés, quand mes seins ont fait comme ça, j'ai commencé à donner des biberons, et puis du coup, effectivement, j'avais plus de lait. Et bah, du coup, c'est un truc qui se confirme, en fait, mais en fait, pas du tout.
Ouais. Bah clairement, je pose la question parce que c'est arrivé à ma meilleure amie. Pour son premier fils, en fait, au bout de 4 mois à peu près, je crois, et ben justement, elle avait plus de lait entre guillemets, donc elle lui a donné des biberons. Et là, elle a eu un bébé il y a quasiment 1 an. Et en fait, donc là, elle a forcé, enfin, elle a vraiment insisté pour l'allaiter. Et donc, elle a réussi à l'allaiter depuis quasiment 1 an, et ça fonctionne bien. Alors que pour le premier, au bout de 3 mois, elle pensait qu'elle n'avait plus de lait, mais en fait, c'était juste une impression. Mais par contre, l'article dont tu parles, ça m'intéresse bien. Si tu veux, je pourrais le mettre dans la description de l'épisode.
D'accord.
Okay. Comme ça, voilà, on pourra avoir aussi des notes et quelque chose d'écrit pour en savoir plus.
D'accord, ok, très bien.
Cool. Alors, troisième question, est-ce que les bébés allaités font moins leur nuit?
Alors, les histoires des nuits de bébé, c'est compliqué. Mm-hmm. Parce que, effectivement, je pense, pour ce que j'ai observé, je pense que c'est un mythe. Parce que moi, personnellement, j'ai des bébés allaités. Et moi, mes bébés ne font pas leur nuit. Clairement, hein, soyons clairs. Par contre, j'ai autour de moi des mamans qui, elles, allaitent. Et leurs bébés font leur nuit au bout de 3 jours, ou en sortant de la maternité, ou au bout d'un mois, ou machin mois, au bout d'1 an, il faut toujours pas leur nuit. Et par contre, j'ai aussi d'autres mamans qui n'allaitent pas, qui donnent des biberons, et qui, au bout d'1 an, 2 ans, leur bébé fait pas leur nuit. Donc, pour moi, c'est vraiment un mythe. Et ce qui m'a vraiment fait réaliser ça, c'est que l'année dernière, à la crèche où était Pierre, ils ont organisé une soirée sur le sommeil de bébé. Et il y avait, donc, il y avait plein de mamans. Il y avait moi qui allaitais, mais Pierre qui avait à cette époque-là déjà 1 an et demi. Et il y avait plein de mamans. Et la majorité des mamans n'allaitaient pas. Et du coup, chacun racontait son histoire. Et je me rendais compte que finalement, ça n'avait rien à voir avec l'allaitement, en fait.
J'étais pas la seule.
Ouais, j'étais pas la seule. Et que c'était pas parce que j'allaitais que mon bébé faisait pas ses nuits.
Faisait pas ses nuits.
Voilà, ça n'a rien à voir. Parce que, en fait, pourquoi? Il faut savoir que le sommeil des bébés, au départ, quand les bébés naissent, ils ont pas le rythme jour-nuit, d'accord? Donc le sommeil des bébés, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont apprendre déjà en regardant les signes de jour, les signes de nuit, et puis après en fonction de comment la maison se rythme et tout. Mais c'est une mise en place qui prend du temps. Le sommeil d'un bébé, d'un enfant, je dis même pas bébé, d'un enfant est mature seulement à partir de 5 ans en fait. Donc avant ça, jusqu'à 5 ans, un bébé peut se réveiller toutes les... un enfant peut se réveiller toutes les nuits jusqu'à 5 ans. Donc du coup, à 5 ans, ça fait longtemps qu'il n'est plus allaité, hein, d'accord. Donc déjà,
oui.
Il faut savoir que...
J'espère bien.
Enfin, ça dépend, mais en tout cas, c'est plus à cause de ça qu'il se réveille, ça c'est sûr.
Oui.
Donc, ça n'a rien à voir avec... Donc c'est vraiment cet apprentissage-là qui va prendre du temps. Après, il y a aussi le fait que les bébés, ils ont besoin de se nourrir la nuit. Les bébés tout petits, hein, donc de 0 à 6 mois, ils ont souvent besoin de se nourrir la nuit, plus ou moins souvent, en fonction de comment est-ce que la maman produit beaucoup de lait ou pas, en plus ou moins de temps. Alors, j'ai encore notre article là-dessus. Sur si tu produis beaucoup en peu de temps, ton bébé va espacer, va dormir, va téter une fois à minuit et une fois à 6 heures. Et si t'es malheureux comme moi et que tu produis peu de lait en peu de temps, ton bébé va se réveiller plusieurs fois pour avoir la même ration, en fait, tu vois. Donc, mais ça, c'est génétique et on n'y peut rien. Et du coup, donc, les bébés ont besoin de se nourrir la nuit aussi. Et le fait de les allaiter, la nuit, ça leur permet de répondre à ce besoin-là. Le problème des biberons, c'est que souvent, on les surnourrit avec les biberons. Donc, du coup, ils ont trop mangé, en fait. Et c'est pas forcément un sommeil réparateur, c'est plus comme quand on a trop mangé à midi et puis on est comme ça, là, tu vois.
Ah, un sommeil où t'es KO, quoi.
Voilà. Ouais, ils sont KO. Et parfois, même, ça peut les déranger parce que ça a fait des reflux et tout ça. Donc, pour répondre à ta question, la question que tu as posée au départ, oui. Je ne pense pas que ce soit l'allaitement qui fasse que les bébés fassent pas leur nuit. Je pense que c'est juste une évolution naturelle du sommeil du bébé, quoi, en fait.
Ok.
Voilà.
Et pour ou contre le tire-lait?
Alors, moi, je suis pour le tire-lait. Pour le tire-lait parce que, déjà, lorsque t'es une maman qui travaille, donc moi, j'ai mes enfants longtemps, hein. Je les allaite, là, Pierre, il a 2 ans et demi, je l'allaite encore. Mais lorsqu'on reprend le travail à 2 mois et demi, et qu'on veut allaiter longtemps, le tire-lait, c'est un indispensable pour pouvoir maintenir sa lactation et continuer à allaiter le bébé. Surtout si on n'a pas envie de donner de biberon, de lait en poudre. Voilà. Donc, pour moi, je suis pour le tire-lait. Après, lorsqu'on est en congé maternité, le tire-lait peut aussi te permettre de faire que ton conjoint puisse donner du lait à ton bébé, que tu puisses te reposer, que tu puisses passer une nuit pour que ce soit ton conjoint qui se lève la nuit. Ça te permet de pouvoir aller sortir un soir avec la copine sans être stressé. Donc, du coup, et d'avoir moins cette sensation que ton bébé est dépendant de toi. Et donc, ça te permet quand même de pouvoir sortir un petit peu, de garder un petit peu une vie, quoi.
Ouais, voilà.
Donc, pour moi,
un petit peu.
Donc, pour moi, je suis pour le tire-lait à fond. La seule chose avec le tire-lait, c'est que souvent, lorsqu'on tire du lait, on donne le lait avec un biberon.
Ouais.
Et c'est le souci, c'est pas le tire-lait, le souci c'est le biberon en fait, parce que pour les bébés, lorsqu'ils sont petits, parfois ils peuvent se mélanger entre la façon dont on tète au biberon et la façon dont on tète au sein, et les deux n'ont rien à voir. Et après, du coup, il peut avoir quelques difficultés de passer de l'un à l'autre. Voilà.
Oui, donc, la confusion synthétine.
Voilà, c'est ça. La confusion synthétine, ouais. Ouais, tout à fait.
Ouais. Parce que de ce que j'ai compris, comme ça tu vas me dire si ma réflexion est bonne. Quand on a un bébé qui tète au sein, en fait, la tétée va être active, donc il va aller aspirer le lait, donc il va donc faire un effort, alors que quand c'est le biberon, la tétée, elle est passive, c'est le lait qui rentre dans sa bouche, il a juste à avaler. Et au final, quand il a un biberon, ben, c'est facile à avaler, alors qu'après, si on lui redonne le sein derrière, et ben, là, il va falloir qu'il fasse travailler, en fait, le tout. Et si le bébé, ben, ça ne lui plaît pas, au final, et ben, il se peut qu'il refuse de prendre le sein, c'est ça?
Alors, en fait, là, il y a deux choses. Donc, ce dont tu m'as parlé, là, le fait que le lait sort du biberon tout seul et que le fait qu'au sein, ils doivent téter, là, c'est pas la confusion synthétine. On va plutôt appeler ça la paresse du bébé par rapport au sein. C'est vraiment de la paresse, c'est juste que ouais, ça le fait chier, quoi. Donc du coup, il préfère être tranquille et que le lait sorte tout seul. Et il y a la confusion synthétine, en fait, qui vient plutôt du fait que la façon dont le bébé met sa bouche pour téter au sein et la façon dont il met sa bouche au biberon, ça n'a rien à voir, en fait. C'est deux positions complètement différentes, rien à voir. Et du coup, quand ils sont petits, on pense de l'extérieur que c'est la même position, mais en fait c'est pas la même position, c'est pas les mêmes muscles, la position de la langue est différente, la position de la mâchoire est différente et tout ça. Et du coup, comme c'est deux trucs différents, c'est trop pour lui. S'il n'est pas encore expert pour téter au sein, il risque de mélanger les deux, quoi. Voilà. Et c'est ça, en fait, la confusion tétine. Donc parfois il va se mettre au sein et téter comme si c'était au biberon et ça va pas sortir, tu vois.
D'accord.
C'est pas qu'il veut pas, c'est juste que c'est pas la bonne technique.
D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut attendre au moins 3 ou 4 mois avant de commencer à donner des biberons, justement pour qu'il s'entraîne à bien reconnaître le sein, c'est ça? D'accord. C'est beaucoup plus simple.
Voilà. Okay. Il sache bien comment téter le sein. Et puis, comme ça, du coup, une fois qu'il se, ça, c'est facile pour lui. Il est expert téteur, on va dire. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'apprentissage. Hein. Il a des réflexes, mais après, il y a aussi l'apprentissage qui se fait. Donc, une fois que, il est expert téteur, là, on peut lui apprendre autre chose.
Voilà. D'accord. OK. Et c'est là qu'on peut commencer à introduire les biberons. Et justement, ça va avec ma question suivante. Comment est-ce qu'on peut impliquer le papa quand on décide d'allaiter exclusivement, par exemple, les 6 premiers mois? On est souvent avec notre bébé, puisque de toute façon, c'est dès qu'il a faim, donc on lui donne à manger. Comment faire en sorte que le papa ne se sente pas exclu?
Alors, comment faire en sorte que le papa ne se sente pas exclu? Déjà, il y a le fait donc de pouvoir tirer son lait, de faire en sorte que le papa donne, donc avec un autre moyen que le biberon, mais donne du lait au bébé. Mm-hmm. D'accord, il peut donner, il y a plusieurs moyens différents de donner du lait au bébé, il n'y a pas que le biberon. Hein. À l'époque, les gens n'utilisaient pas de biberon, ça marchait très bien.
Oui.
Et il y a donc déjà ça. Il y a aussi le fait, par exemple, que le papa participe à tout ce qui est auprès du bébé par rapport à tout ce qui est soin du bébé, donc soin du cordon, nettoyage, changement des couches, bain. Il peut faire du pot à pot, le papa, avec le bébé. Il n'y a pas parce qu'il n'a pas de sein qu'il peut faire du pot à pot avec le bébé. Il peut faire des câlins avec le bébé. Il peut le promener. Il peut aller chercher le bébé, par exemple, la nuit, si la maman doit allaiter la nuit pour l'amener au bébé. Voilà, il peut faire des siestes avec le bébé. Il peut faire tout, en fait. La seule, finalement, on a l'impression que le bébé, c'est il mange, il dort, et que c'est tout. Mais en fait, il y a plein de choses que les mamans font avec le bébé.
Oui, c'est vrai.
Que le papa pourrait très bien faire, en fait. Et souvent, on a tendance à penser qu'il faut que c'est, il peut que lui donner du biberon, mais en fait, non. Les mamans ne font pas qu'allaiter leur bébé. Elles font plein de choses. Elles font des massages, elles chantent des chansons, elles lisent des cantines, elles font des câlins, elles le portent au dos ou en écharpe ou machin, elles l'amènent se promener. Tout ça, le papa peut le faire, en fait. Finalement, il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas faire.
C'est lui donner le sein.
Voilà. Donc, il y a aussi le fait, en fait, ce qui est important dans l'allaitement, c'est important que le papa soit impliqué dans l'allaitement aussi, parce que ça joue énormément l'environnement pour que la maman se sente suffisamment détendue, suffisamment confiante, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut faire beaucoup perdre confiance aux mamans, ouais, si l'allaitement est un peu difficile, tout ça. Donc, que le papa soit là, qu'il sache qu'il est assisté à des réunions de préparation à l'allaitement pour savoir, dans les moments de doute, quoi dire à sa femme, pour dire « Non, c'est bon, tu te souviens ?» Parce que la femme, quand elle est... Quand elle a accouché, là, elle devient un peu bête. Hein. Elle devient un peu bête.
Oui, c'est vrai, tu oublies tout.
Faut dire la vérité.
Oui.
Faut dire la vérité. On est tellement sous le coup de l'émotion, on réfléchit plus. C'est, ah là là, mon bébé, oh là là, je suis trop nulle, oh là là, machin. Et si le papa, il a les informations. S'il a assisté à la chose, il peut juste dire à ta femme, t'inquiète pas, tu te souviens, la dame, elle avait dit ça, donc ce qu'il fallait faire, c'était ça, donc voilà, t'inquiète pas, ça va passer. Et ça, pour ça, le mari, c'est vraiment très, très important, quoi.
Oui, c'est vrai.
Qu'il soit là. Et qu'il soit là. Oui.
Non, vas-y, vas-y, continue.
C'est aussi important qu'il soit là pour protéger. Finalement, historiquement, depuis la préhistoire, tout ça, le mari a la mission de protéger la femme et le bébé. Et sa mission, c'est vraiment ça, protéger la femme et le bébé pour que les autres les laissent tranquilles. Parce que souvent, la maman est fatiguée, le bébé, ils ont vraiment besoin de temps pour créer cette connexion-là, mère-enfant. Et il y a toujours plein de gens qui sont en train d'arriver. Déjà, à la maternité, c'est juste insupportable.
Ouais.
Il y a toute la famille qui veut venir prendre, toucher le bébé. Et puis, il y a tout le monde qui va venir dire, mais pourquoi tu l'allaites? Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça fait 2 minutes que tu l'allaites. Pourquoi tu le remets au sein? Et patati, et patata. Ouais. Et en fait, là, pour moi, là, c'est le rôle du mari de dire, laissez ma femme tranquille. On a décidé de l'allaiter, donc on l'allaite. Voilà.
Oui.
Pour moi, c'est...
Je suis d'accord, à 100%.
Parce que la maman, elle est tellement... Il y a toute la partie émotionnelle, hormonale aussi, qui fait qu'elle est pas... Elle est très sensible, elle prend les choses très, très à cœur. Elle peut pleurer parce qu'on lui a regardé de travers, tu vois. On est vraiment dans un état particulier quand on vient d'accoucher. Et pour moi, c'est vraiment là, vraiment le rôle de l'homme. Pour moi, c'est ça, quoi. Faire en sorte que la maman puisse s'occuper du bébé, enfin pour l'allaitement et tout ça, et se sentir bien, et que être protégée de des interventions trop parfois, peut-être parfois négatives des autres, pour que la maman puisse être sentir sécurisée. Et qui, donc, qu'il soit soutien de l'allaitement. Ça, c'est très important. Et puis après, pour tout le reste par rapport au bébé, faire plein de choses, tout faire.
Non mais c'est vrai, hein, t'as totalement raison pour le coup, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que l'environnement, les proches, moi c'est quelque chose qui m'avait marqué en fait, c'est que ils ont toujours quelque chose à te dire, peu importe ce que tu fais ou comment tu fais ou autre, même si ça se veut bienveillant, il y a des fois où juste zip quoi, enfin tu dis rien et tu laisses faire parce que on apprend aussi et c'est vrai que ça peut rendre les choses quand même un petit peu compliquées, mais bon. Et donc ma dernière question concernant l'allaitement. C'est comment est-ce qu'on peut sevrer un bébé? En fait, comment se passe le sevrage du bébé?
Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je suis plus pour un sevrage que je dirais naturel, c'est-à-dire on laisse téter le bébé, enfin naturel, parce que naturel ça peut durer très longtemps, mais en tout cas, on laisse téter le bébé et puis petit à petit de lui-même, les tétés vont diminuer.
D'accord.
Les tétés vont diminuer, il va commencer à manger de plus en plus et tétés de moins en moins et ainsi de suite, comme ça. Donc là, en général, si on fait ça au bout de 3 ans, je rassure tout le monde. En général, déjà à partir de 1 an et demi, il ne reste que la tétée du matin et du soir.
D'accord.
Et puis après, c'est vraiment des tétés câlins, quoi.
Oui, tétés de convenance.
C'est plus la tétée pour manger. Donc après, c'est vraiment la maman et le bébé qui décident si la maman en a marre, elle peut arrêter quand voilà, quoi. Là, il n'y a plus de nourriture.
D'accord.
Il y a de la nourriture, mais il y a aussi et surtout beaucoup du câlin, en fait, parce qu'ils mangent déjà plein de choses. Donc ça, c'est ce que moi, je fais avec mes enfants. C'est comme ça que j'ai fait. Donc du coup, plus ils mangent, moins ils têtent. Là, Pierre, il tète encore un peu le matin, un peu le soir. Mais déjà, c'est très, très limité dans le temps. Il peut être à 5 minutes, donc c'est pas beaucoup.
Ah oui.
Et puis parfois, le matin, il a plus envie de manger son petit déjeuner que de téter, quoi. Et c'est comme ça que ça se fait. Et puis du jour au lendemain, il n'y a plus de tête, il ne réclame plus.
D'accord.
Voilà. Après, il y a le sevrage qu'on dit habituel, où là... que j'appelais habituel, où là, on va introduire des biberons au fur et à mesure. jusqu'à ce que le bébé ne soit nourri qu'au biberon ou autrement et qu'il n'y ait plus de sein, de tétée du tout. Et donc là, dans ce cas, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire, il n'y a pas de faux en fait, tout le monde fait un peu à sa sauce, ce qu'on peut faire, c'est remplacer une des tétées par un biberon.
D'accord.
Et puis après, quand ça, c'est bien mis en place, après on en remplace une autre, on en remplace une autre, on en remplace une autre. Ou alors on peut décider par exemple que ça peut se faire assez facilement lorsque le bébé est gardé, lorsqu'on reprend le travail par exemple, parce que là, à ce moment-là, de toute façon, la maman n'est pas là.
Oui.
Donc il faut bien qu'il mange autrement. Donc du coup, soit on continue à tirer du lait et du coup à la crèche ou chez la nounou, il les prend un biberon. Et à la maison, il tète seul, il fait que téter. Donc là, du coup, on peut garder ce rythme-là pendant le week-end aussi. Faire en sorte que le week-end, dans la journée, ils prennent des biberons et seulement le matin et le soir, ils tètent. Là, c'est vraiment la maman qui décide un petit peu en fonction de comment elle a envie de faire.
Ok, mais comment est-ce que on peut se soulager au début? Parce que si on fait sauter une tétée, bah les seins vont quand même gonfler. Il y aura la montée de lait qui va se faire. Et donc, comment est-ce qu'on s'arrange dans ces cas-là?
Alors, pour ce qui est de gérer la montée de lait. Ça dure pas longtemps. Hein. Quand tu fais sauter une tétée, si tu la fais sauter au bout de 2 jours, tu ne sens plus trop.
D'accord.
Mais dans les 2 premiers jours, c'est vrai que ça peut être compliqué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu as fait sauter ta tétée, tu tires un peu de lait, mais juste un tout petit peu, juste ce qu'il faut pour te soulager. Parce que si tu vides le sein, ton corps va comprendre que ton bébé a tété, donc ça sert à rien, tu vois.
D'accord.
Donc, il faut que tu vides juste un petit peu pour te soulager. Et puis après, comme ça, là, ton corps va te dire, ah, il n'y a pas eu assez de, le bébé n'a pas trop pris à cette tétée-là, donc là, demain, je vais faire moins de lait.
Mm-hmm.
Et ainsi de suite, tu vois.
D'accord.
Donc, plus tu laisses ton sein rempli, plus ton sein va faire moins de lait.
D'accord.
Donc, ça comme ça.
Ok.
C'était clair, là?
Oui. Oh, on a compris. Plus tu laisses ton sein rempli, moins il va produire de lait.
Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Donc, si jamais tu sautes une tétée et que tu ne fais rien, le lendemain, tu vas avoir moins de lait à cette heure-là, et le jour d'après, tu vas avoir encore moins de lait, et le jour d'après, tu auras plus de lait.
D'accord.
À cette heure-là. C'est... Voilà.
Ok.
Simplement.
C'est noté. Et donc là, maintenant, on va retourner voir Elvire, la maman.
Oui.
Donc alors, tu nous as dit au début de l'épisode que tu es béninoise et que ton mari est français, français blanc. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu mets en fait, quelles sont les traditions que tu apportes à tes enfants, tes traditions béninoises à toi?
Alors, moi, mes traditions béninoises, déjà, je pense que ma manière de parler, ma manière de m'exprimer, mon accent et tout ça, faut que, déjà à la base, parce que mon mari comprend pas tout ce que je leur dis, les expressions et tout ça, donc voilà. Et puis ensuite, il y a beaucoup dans l'alimentation, en fait, la façon dont on mange. J'ai beaucoup de repas, de plats africains. Et il y a aussi ma maman qui vient souvent me voir. Donc, du coup, elle leur raconte des histoires. Mmh. On lit aussi beaucoup d'histoires de là-bas.
Ah, c'est bien.
D'histoires.
Ça, c'est cool.
Donc, voilà, des chansons, des petites choses comme ça.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses de ton éducation que tu veux absolument transmettre, des valeurs et d'autres un petit peu moins, on va dire?
Oui. Alors, pour cette question, l'éducation que moi j'ai reçue, moi personnellement, elle n'était pas comme, elle était un peu différente des autres enfants au Bénin, je pense.
Oui.
J'étais beaucoup plus libre que les autres. Il y avait une relation beaucoup plus respectueuse avec ma maman, avec mon grand-père et tout ça. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de garder. De leur transmettre ça, en fait. Ce côté, où on peut se faire confiance mutuellement. Par contre, c'est vrai que globalement, en Afrique, et en tout cas au Bénin, il y a beaucoup cette histoire de respect de l'adulte.
Mm.
Et ça, c'est quelque chose que je veux garder. Je veux le respect sans la peur.
Oui.
Tu vois? Parce que souvent, on respecte parce qu'on a peur.
Ouais.
On a peur de se faire taper, on a peur de se faire engueuler, on a peur de quelque chose. On a peur de l'adulte, quoi. Et moi, j'ai envie de, plutôt qu'ils me respectent, mais pas par la peur, en fait.
D'accord.
Donc, je leur mets des cadres, je mets des limites, je fais respecter ces limites-là, mais en évitant au maximum de crier, de gronder, de taper. J'ai bien dit éviter au maximum. J'ai pas dit que c'est éradiqué.
Oui, il y a des fois où on n'a pas trop le choix.
Il y a des fois où on est juste humain et que voilà, ça sort. Et puis il y a aussi la façon dont on a été élevé qui fait que, on n'a pas forcément, on est dans l'émotion, on n'a pas forcément le temps
de processer et d'y aller.
Non, de processer, de dire non, c'est bon, je respire, je fais la méditation, machin, ouais, et puis voilà. Des fois, ça marche pas. Donc voilà. Donc par contre, c'est l'intention, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible pour qu'il y ait plus une relation de respect mutuel. Ça, tout en sachant que c'est moi qui ai l'autorité et pas eux. Mais par contre, on se respecte, c'est-à-dire j'écoute ce qu'ils ont à dire, et s'ils sont pas contents, ils ont le droit de le dire, et s'ils trouvent que là j'étais injuste, je comprends que tu penses que j'étais injuste, mais c'est comme ça, tu vois, voilà, c'est ça. Oui. Ils ont le droit de s'exprimer pour les décisions qu'ils trouvent injustes et tout, aussi.
Voilà. Ça s'arrête là, ok. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es sentie devenir mère ?
Alors, c'est vrai que ça, c'est une question intéressante parce que lorsqu'Ariane est née, je me souviens, je l'ai regardée pendant longtemps à la maternité, disant, ok, c'est ma fille. Donc déjà, pendant la grossesse, elle était dans mon ventre. Déjà, je me disais, ok, toi, tu restes là, tu fais ta vie, je fais la mienne, on verra après quand tu seras née. D'accord? Donc, c'est pas le moment de donner des nausées, le machin, je fais ma vie, on verra ça après. D'ailleurs, ça s'est bien passé la grossesse.
Merci.
Et puis après, quand Ariane est née, je la regardais, elle disait, ah ouais, c'est ma fille, je suis maman, en fait. Mais ça me paraissait bizarre, elle disait, mais en fait, j'ai plus l'impression que je suis la babysitter, ou la grande sœur, qu'on me l'a confiée, tu vois. La seule chose, c'est que j'étais une babysitter qui allaitait.
Mais vraiment, il n'y en a pas beaucoup, hein.
Voilà. Et c'est vraiment pour moi ce qui m'a permis de, ce qui me permettait vraiment de me sentir mère, c'était le fait de l'allaiter déjà, parce que c'est vraiment la seule chose qu'il n'y a que la maman qui peut faire et personne d'autre. Pas une babysitter, pas une grand-mère, voilà, il n'y a que la maman qui peut le faire. Et puis ensuite, je me suis sentie vraiment maman le jour où elle a eu son premier rhume, là, et puis j'étais quand même paniquée parce qu'elle avait le nez bouché, je n'ai pas dormi la nuit, j'ai réveillé au mari, il faut qu'on aille appeler les urgences et tout. Bref, je disais, quand on est maman, on devient bête, ah, voilà. Donc, c'est là que je me suis sentie vraiment, oui, quoi. Là, c'est mon bébé.
Parce que t'as senti l'inquiétude, quoi. Voilà, et pour Pierre?
Ben, pour Pierre, du coup, ça s'est fait beaucoup plus facilement. Parce que j'étais déjà dans un rôle de maman, en fait.
Oui.
Tu vois? Tu ne découvrais pas ce qu'était la maternité. Oui. Donc, du coup, bon, déjà, quand c'est le deuxième, on stresse beaucoup moins parce que, genre, quand il a un rhume, tu le mouches et puis c'est tout, quoi. Tu te dis pas, ah là là, il faut aller aux urgences parce que il n'arrive pas à téter, donc du coup, il va mourir de faim demain, tu vois.
Non, voilà. Tu sais à quoi t'attendre, donc ça va.
Donc du coup, pour Pierre, ça s'est fait beaucoup plus naturellement, c'était beaucoup plus facile. Ouais.
Ok. Et est-ce que tu as une anecdote ou un conseil ou quelque chose que ta maman t'a dit ou un moment que tu as vécu avec elle que tu aimerais nous partager?
Oui. Alors, lorsque Ariane est née, toujours, donc tu as compris que quand Ariane est née, j'étais le genre, voilà, fric. Donc, il fallait que je sois toujours à côté de moi, je ne pouvais pas aller faire pipi, je ne pouvais pas, j'étais vraiment dans une espèce de, j'avais l'impression que si elle quittait mes yeux, qu'elle allait mourir, quoi, tu vois.
Ouais.
C'était une sorte d'angoisse, une grosse responsabilité, une angoisse permanente et tout. Et ma maman m'a dit, mais en fait, Elvire, tu sais, c'est Dieu qui va veiller sur ton enfant, c'est pas toi. Toi, tu vas veiller sur lui normalement, mais il y a plein de choses qui peuvent arriver que même si t'es là, tu pourras pas empêcher. Donc finalement, la vie de ton enfant ne dépend pas de toi.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose, sur le coup, ça m'a saoulée. Hein,
bah oui, pareil, normal.
Tu viens d'être maman, t'es... voilà.
Mais quand tu réfléchis,
mais quand tu réfléchis, c'est vrai. Et puis du coup, c'est beaucoup plus, on y a moins de pression en fait. Et s'il y a moins de pression, t'es plus à même de mieux t'occuper de l'enfant.
Oui, c'est vrai.
Parce que t'es moins stressé pour tout. T'as moins peur que si tu nettoies pas bien le cordon, il va avoir une infection. T'as moins peur de mal changer la couche. Voilà. T'as moins peur en fait. Et du coup, pour moi, c'est vraiment cette phrase qui m'a permis de prendre un peu plus de recul.
Ouais.
Dans le sens où c'est pas moi qui je ne suis pas maître de la vie de mon enfant. C'est pas moi qui gère sa vie. Et je suis là pour l'accompagner dans la vie. Je fais de mon mieux, mais bah quoi, je n'ai pas le pouvoir de vie et de mort sur elle. Et donc du coup, c'est quelqu'un d'autre qui veille sur elle en fait.
D'accord.
Voilà. Voilà, tout simplement.
Ok, bah c'était un super mot de la fin, je trouve. C'était un très beau conseil, pour le coup. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'il faut Enfin, c'est une philosophie qu'il faut qu'on adopte, même pour nous, même pour tous les jours, même quand on a un enfant qui est grand, en fait. Au final, bah, on peut rien faire, on peut pas les protéger de tout, et on fait de notre mieux. Et
Ouais, voilà, c'est tout à fait ça.
Voilà. Et si on peut essayer de les aider, bah tant mieux. Mais malheureusement, on pourra pas être là tout le temps pour tout, donc on fait comme on peut, quoi.
Tout à fait. On fait comme on peut, on fait de notre mieux, bien sûr, on fait comme on peut, et puis après, finalement, nous, on s'en est bien sortis, quoi. Donc,
oui,
ils s'en sortiront bien aussi, quoi.
C'est clair. C'est tout ce que je leur souhaite, en tout cas. Bah, vraiment, Elvire, je te remercie pour ton temps, pour avoir répondu à nos questions, enfin, à mes questions, parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Et tu nous as apporté des explications qui étaient vraiment très intéressantes. Et donc, j'espère que ça va aider les mamans qui nous écoutent.
Avec joie, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec toi. J'espère que je vais pouvoir aider des mamans pour les problèmes d'allaitement et aussi les aider à déstresser, en fait.
Ouais,
se dire que finalement, elles sont tout à fait capables et qu'elles sont déjà les meilleures mamans pour leurs enfants. C'est ce que j'ai envie de leur dire.
Ah, cool. Et justement, où est-ce qu'on peut te contacter si on a besoin de toi?
Alors, pour me contacter, il faut aller sur le site ensymbiose-allaitant.fr ou alors directement sur Facebook. Il faut taper Elvire Tonisso et on me trouve, je m'envoie un message.
D'accord, super. De toute façon, je mettrai toutes tes coordonnées dans la description de l'épisode. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de te contacter si besoin.
Ok, super.
Super. Merci, bah, je te remercie, Elvire. Salut.
Avec grande joie. Passe une bonne soirée.
Merci, toi aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, là-bas je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Ayonene Podcast. À tout de suite.